Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bonjour Julien.
Bonjour Alexandre.
Eh bien, je te laisse le micro pour cette nouvelle chronique des coups de cœur de Julien.
Eh bien, écoute, aujourd'hui dans les coups de cœur de Julien, je vais vous parler de plusieurs applications mobiles qui peuvent vous permettre donc de sauver des vies. Donc avec ces applications, vous allez notamment pouvoir localiser des défibrillateurs, apprendre des gestes qui sauvent ou encore vous porter volontaire pour aider des personnes dans le besoin. Alors, je vais commencer par deux premières applications qui s'appellent Save Life et Permis de sauver, qui sont donc deux applications assez similaires, donc je vais les présenter ensemble. Donc, le concept de ces applications sont assez simples. Vous allez vous inscrire comme sauveur potentiel. Ça signifie donc que, grâce à la géolocalisation, si une personne a un problème proche de vous, vous serez donc alerté pour vous rendre sur place au plus vite pour porter assistance à la victime. Le principe de l'application est donc génial et peut vous permettre de sauver de nombreuses vies et peut permettre en général de sauver de nombreuses vies. Car le temps que les pompiers arrivent sur les lieux de l'accident, parfois il est trop tard. En effet, selon la Fédération française de cardiologie, sans une prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fataux. Et quand on sait que le taux de survie global à un arrêt cardiaque en France est de 5%, on mesure bien l'importance primordiale des gestes de premier secours dans ce genre de situation. Cette application est donc super importante à installer sur vos téléphones si vous maîtrisez les gestes de secours, car cela peut permettre de sauver une vie. Et ces applications sont directement en lien avec le SAMU et les secours, car ce sont eux qui vous contactent directement si une situation nécessite l'aide d'un secouriste sur place. Sachez d'ailleurs, pardon, que pendant l'ensemble de l'opération, jusqu'à l'arrivée des secours, un médecin reste au bout du fil pour vous guider dans les gestes à adopter. Mais tout le monde ne maîtrise pas forcément les gestes de premier secours, car ils n'ont pas été formés ou alors ils l'ont été mais il y a trop longtemps. Et pour cela, il existe une autre application qui, elle, vous forme aux gestes de premier secours. Et cette application s'appelle l'Appli qui sauve, qui est donc une application de la Croix-Rouge. Elle a donc pour vocation de vous apprendre ou alors de vous rappeler les gestes de premier secours. Grâce à elle, vous pouvez à tout moment apprendre ou vous remémorer les bons gestes à effectuer et avoir toujours ce guide dans sa poche peut s'avérer bien utile. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 5%, mais il est 2 à 3 fois plus élevé dans les pays où justement les lieux publics sont équipés de défibrillateurs automatiques et où la population est formée aux gestes qui sauvent. Cela est donc presque une mission, voire un devoir citoyen de maîtriser les gestes qui sauvent. De plus, c'est toujours rassurant pour soi et pour ses proches d'avoir près de soi une personne formée à ces gestes. Il est aussi nécessaire de disposer de certains diplômes de secourisme, notamment dans certaines entreprises où il y a des quotas qui existent, ou encore dans certains métiers sociaux ou d'encadrement. Mais il n'y a pas que ça dans cette application. Il y a aussi toutes les instructions pour pouvoir réagir à d'autres situations, notamment des catastrophes naturelles, et il y a aussi des informations sur les secours à appeler en cas d'urgence, par exemple le 15, le 17 ou encore le 18. Et dans le cas où vous ne vous faites pas confiance, il y a aussi des quiz pour tester vos connaissances. Mais finalement, le meilleur réflexe pour apprendre tous les gestes reste des stages ou des formations encadrées par des professionnels qui sauront donc vous apprendre correctement les gestes et les moyens de réagir. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes formations disponibles, et elles sont nombreuses. Moi, je sais que pour ma part, j'avais fait donc le PSC1, qui est la formation basique de secourisme, et elle est vraiment pas très contraignante. Ça se fait uniquement sur une journée, ça coûte pas très cher, et si l'intérêt c'est peut-être plus tard de sauver une vie ou d'aider quelqu'un dans le besoin, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, je vais vous présenter une troisième application, et pour cette application, juste avant de vous la présenter, je vais vous laisser écouter quelque chose. Est-ce que vous reconnaissez dans le studio?
Non.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est pas moi en régie.
Ah oui, mince, Chloé est riche. Non mais Alexandre en plus, il doit connaître. Hein. Ah tu... Oh là là, il n'entend pas. Ah bah bravo. En plus, on en a parlé la semaine dernière, Alexandre, rappelle-toi.
Mais il n'y a plus rien là.
T'entends pas? Il n'entend pas. Bon, la musique, c'est Staying Alive. Donc Staying Alive du groupe Bee Gees, qui est donc, il y a donc une application qui porte ce nom, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, cette application, Chloé adore en fait, elle est en train de danser, hein, je crois qu'on va la laisser toute l'émission. Et donc, cette musique que vous connaissez a donc un rythme d'à peu près 100 battements par minute, et c'est le rythme idéal à appliquer pour un massage cardiaque. Donc, si un jour vous vous retrouvez dans cette situation... Téléphone, Spotify, pas, on lance.
Pas.
Staying Alive, bim, Bee Gees, et c'est parti.
Moralement, pour l'individu, ça peut être bon d'entendre s'il reste en vie.
Je sais pas s'il entend du coup. Si t'entends quand tu fais un arrêt cardiaque?
Je pense, oui. Parce que quand tu vois les médecins, généralement, ils font rester avec moi, monsieur, est-ce que vous
m'entendez? Ouais, mais pas quand tu fais un arrêt cardiaque.
Bah si.
Ça, c'est un malaise, non?
Bah non.
Ah ouais?
Tu regarderas les documentaires sur YouTube avec ça. Je fais ça tous mes week-ends.
Pourvu qu'il soit anglais, le mec.
Ah ouais, en plus, tu sais, il va commencer
à se réveiller, c'est ça. Wouh! Bon. C'est bon, ça va mieux, les potes.
Bon, alors du coup, cette application, entre autres, elle porte donc le nom de cette musique, mais cette application est donc une application qui vous permet de géolocaliser des défibrillateurs, donc des DAE, des défibrillateurs automatisés externes, les plus proches de vous. Ouais, bah, ton boss, hein, on cherche les noms et tout. Et donc, ces DAE, on sait qu'ils... Enfin, je suis allé me renseigner. Ils doivent être utilisés dès 2 minutes après le début du massage cardiaque. Donc, du coup, c'est très important d'en avoir assez proche de soi. Et donc, cette application permet de les géolocaliser et permet donc d'aller en chercher assez rapidement. C'est important donc de l'avoir sur son téléphone, qu'on soit secouriste et qu'on maîtrise les gestes de premier secours ou non. Car, de toute façon, pour courir jusqu'au magasin ou jusqu'au lieu public le plus proche pour en récupérer un et le ramener, il n'y a pas besoin de formation à part une formation de course.
Mais... Des jambes.
Ou des jambes, voilà, faut des jambes. Si vous n'avez pas de jambes, c'est plus compliqué. Mais
oui, y aller sur les mains.
Sur les mains, il y a toujours une solution. Donc voilà, c'est une application qui est vraiment bien et on la présente souvent justement dans les formations parce que, voilà quoi, elle est cool. Pas plus d'arguments, mais vas-y, t'as compris. Donc bref, pour conclure cette chronique, je pense donc que la formation aux gestes de premier secours est primordiale et que de plus en plus de personnes devraient être formées à cela. Je tiens donc à vous rappeler des chiffres que j'ai évoqués au début de la chronique. Par exemple, en France, 15% de la population sont formées au massage cardiaque, ce qui est quand même assez peu, pour un taux de survie de 5%, alors qu'en Allemagne, 70% de la population est formée à ces mêmes gestes, pour un taux de survie de 30%. Donc ces chiffres témoignent quand même de l'intérêt que la population soit formée à ces gestes pour sauver des vies. J'ai beaucoup parlé des massages cardiaques, mais bien évidemment, c'est pas le seul geste à connaître. Il y en a d'autres tout aussi importants, comme par exemple les réflexes à avoir en cas de noyade, de malaise, en cas d'AVC, etc. Donc c'est des formations très instructrices. C'était les coups de cœur de Julien.
Cette conclusion des familles...
Thank you.
bien, de retour sur le plateau de Sortez, en compagnie aujourd'hui de Laetitia d'Angers. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être avant même... Oh non, avant je vais faire ça, je vais dire que vous faites partie de l'association Famille Rurale, c'est bien ça?
Oui, la Fédération Famille Rurale d'Indre-et-Loire.
La Fédération d'Indre-et-Loire. Oui. On va voir que ça se déploie sur tout le territoire.
Oui.
Quel est votre poste peut-être déjà au sein de cette association?
Je suis conseillère technique en développement durable. Donc je développe et j'anime des projets autour de cette thématique sur tout le département.
Très bien. Donc vous êtes l'une ou peut-être la seule salariée de l'antenne?
Non, en tout on est trois, bientôt quatre salariés. Donc il y a une directrice, une comptable, donc moi-même sur la partie développement durable. Et bientôt on va avoir aussi une conseillère technique sur un projet qu'on a qui est la mobilité solidaire.
Mobilité solidaire, très bien. Vous pouvez nous en dire plus, mais en quelques mots tout de même, sur Famille Rurale pour un peu dépeindre ce que c'est?
Oui, tout à fait. Donc Famille Rurale, c'est le premier mouvement familial en France. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui a pour objectif d'accompagner et de développer les territoires ruraux et notamment ses habitants. À travers la promotion et le développement d'activités sur ces territoires et le développement associatif. Ces missions, en fait, c'est informer les familles, faire entendre leur voix, proposer des réponses adaptées aux besoins des familles, familles au sens large, hein, pas que forcément famille avec enfants, développer l'entraide de proximité, dynamiser les territoires ruraux et périurbains, et puis soutenir l'engagement associatif.
Donc ça, c'est vraiment les projets en quelque sorte mis en avant par la Fédération Nationale?
Tout à fait, parce qu'effectivement il y a une Fédération Nationale, des fédérations régionales, des fédérations départementales et après on a différentes associations locales, donc un tissu associatif assez large.
Ah oui, donc grosse association, grosse organisation.
Oui, en France on a 160 000 familles adhérentes au total, 40 000 bénévoles. Et 17 000 salariés. Ça, c'est sur toute la France.
Très bien. Oui, donc c'est vraiment beaucoup. Hein.
Oui.
Vous pouvez nous revenir un petit peu sur l'histoire, mais en quelque sorte, plutôt depuis combien de temps l'asso existe et pourquoi, en fait, elle fut créée à la base?
Alors, en Indre-et-Loire, la fédération existe depuis les années 70. En France, le mouvement Famille Rurale, je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais bon, c'est un mouvement qui est assez ancien et qui a vocation, comme je vous l'ai dit, à accompagner les territoires ruraux qui on avait des problématiques à l'époque assez différentes d'aujourd'hui sur de la consommation, du développement après-guerre, etc. Donc oui. Un peu différent d'aujourd'hui. Mais voilà pourquoi ça a été créé à l'époque, ce mouvement. Et aujourd'hui... On est vraiment sur de la défense des intérêts des habitants des territoires ruraux et on intervient enfin sur tous les âges, que ce soit à partir de la petite enfance jusqu'au grand âge, jusqu'au senior en fait.
Et vous voulez dire, de par défendre un peu les intérêts, tout ça, que votre association, elle est reconnue en quelque sorte d'utilité publique, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et donc les pouvoirs publics, est-ce qu'ils vous donnent certaines...
En fait, la Fédération Nationale participe beaucoup à l'élaboration de certaines lois. Oui. Donc elle fait partie de certains comités hein, pour l'élaboration de certaines lois. Notamment, par exemple, là, si je prends le projet de mobilité solidaire, elle a été très active sur la sortie de la loi LOM, la loi sur les mobilités. Donc elle a été très active sur ça et notamment sur la mobilité solidaire parce qu'on a d'autres fédérations aussi qui portent des projets autour de la mobilité solidaire.
Et c'est quoi la mobilité solidaire?
La mobilité solidaire, c'est l'objectif, c'est de développer un réseau de bénévoles, de conducteurs bénévoles et de bénéficiaires avec la finalité de lutter contre l'isolement de certaines personnes. Nous, on vise pas un certain type de public, on vise tout type de public pour différents types de transport. Par exemple, ça peut être de l'accès aux soins, ça peut être de l'accès aux loisirs. Nous, on a des associations qui proposent beaucoup d'activités de loisirs. Ça peut être aller voir sa famille, ça peut être aller faire des courses. Voilà. Et c'est un transport avec un plus, c'est-à-dire un accompagnement social aussi, pour créer du lien social entre à la fois les habitants des territoires ruraux et les conducteurs bénévoles.
Et vous, vous y prenez comment ? Il y a une appli
Non, alors, on n'est pas encore à l'appli.
C'est une bonne idée, remarquez.
Oui, c'est une bonne idée, mais pas toujours parce que,
par exemple,
on a certains qui ne sont pas très au fait de l'outil informatique, donc encore moins des applis. Mais en fait, nous, ça fait un an et demi qu'on réfléchit à ce projet de mobilité, parce qu'on est amené à se déplacer sur pas mal de temps de travail, de rencontres sur les différentes intercommunalités, et on se rend compte que la problématique de la mobilité dans les territoires ruraux est assez importante. Enfin, en tout cas, on en entendait beaucoup parler. Et on s'est dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, surtout que nous, on a 16 associations locales, donc qui proposent des activités de loisirs, pour la moitié qui ont des accueils de loisirs, et le reste qui proposent des activités type gymnastique, activités manuelles, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on s'empare de ce sujet, surtout qu'on avait aussi d'autres fédérations qui proposaient du transport solidaire et on s'est rapproché d'elles pour connaître un peu le mode de fonctionnement. Et on a réuni quelques partenaires du territoire intéressés par cette problématique de la mobilité, notamment des professionnels de santé, des associations culturelles, des collectivités, le conseil régional, le conseil départemental. Et depuis donc octobre 2018, on co-construit ce projet et les partenaires ont été d'accord de dire que c'est Familles Rurales qui porte ce projet. L'idée, c'est de, quand on va avoir des demandes de transport, de mobilité, c'est d'orienter d'abord vers de l'existant, c'est-à-dire soit des transports publics, par exemple, quand il y en a, soit du transport privé où il existe des initiatives de transport solidaire. On a fait en 2019, on a fait un petit état des lieux de ce qui existait sur le territoire et on s'est rendu compte qu'il existait quand même pas mal de choses, mais que c'était très méconnu. Et ensuite, une autre problématique, c'est que c'était soit orienté vers un type de public, donc souvent senior ou par exemple public en insertion, ou vers un type de transport, ça peut être soit de l'accès aux soins, soit de l'accès à l'emploi. Et pour nous, c'était pas concevable qu'il y ait qu'un seul type de public à chaque fois qu'il puisse bénéficier de la mobilité. La mobilité, elle touche tout le monde et ça peut être une maman avec des enfants qui est complètement isolée parce qu'elle a pas de voiture pour aller faire des activités de loisirs avec ses enfants. Donc nous, on l'ouvre à tout le monde pour tout type de transport, pour pouvoir lutter contre l'isolement justement. Et le principe, donc, c'est qu'on va orienter les personnes vers de l'existant, s'il existe déjà des choses. Et ensuite, on viendra pallier au niveau des zones blanches ou au niveau de transports qui peuvent pas être effectués dans d'autres cadres, avec un réseau de conducteurs bénévoles. Donc on va essayer de recruter des conducteurs bénévoles et qui pourront faire ces transports avec une indemnité kilométrique de 35 centimes du kilomètre. Voilà. Pour l'instant, depuis janvier, on a déjà ce transport qui est organisé sur le territoire de la communauté de communes Gâtine-Choisy, Pays de Racan, parce qu'en fait, on a repris un dispositif qui existait déjà, qui s'appelait Mobilage, qui était géré par AGV, et qui était adressé exclusivement aux seniors. Et donc là, on l'a repris et on va l'étendre à d'autres publics.
Très bien. Donc c'était l'une des facettes importantes un peu de cette antenne d'Indre-et-Loire.
Tout à fait.
Avec à côté du coup le développement durable.
Oui, en fait on est la seule fédération en France à avoir un poste à temps plein, donc le mien, sur le développement durable. Le conseil d'administration depuis 2012 a fait le choix de développer cette thématique-là, le développement durable, à la fois dans nos associations, donc les accueils de loisirs et puis les associations autres, mais aussi en partenariat avec les territoires ruraux. Et l'idée, c'est de développer des projets soit de territoire sur cette thématique-là, donc ça peut être sur l'alimentation, sur les déchets, sur l'énergie, sur la santé environnementale aussi, donc voilà, c'est assez large. Et voilà, de pouvoir proposer aux habitants des territoires ruraux des animations, des activités, des projets en lien avec cette thématique.
Très bien. Quand vous parlez d'associations un peu du territoire, vous avez dit 16, je crois.
Oui.
En fait, ça veut dire que pour une asso, on peut fédérer, en tout cas devenir un peu collaborateur de Familles Rurales.
En fait, on a... comme je vous ai dit, il y a des fédérations départementales et ensuite, il y a des associations locales Familles Rurales.
Ah, très bien.
Qui s'appellent okay. Familles Rurales, okay. Qui ont leur propre fonctionnement, mais qui sont fédérées sous le mouvement Familles Rurales. Donc en fait, elles vont faire payer les cotisations Familles Rurales, parce qu'il y a des principes d'adhésion aussi. Hein, quand on est adhérent à une association, on paye une cotisation, comme beaucoup d'associations.
Comme toutes, oui-même.
Voilà. Pas toujours, mais en général, okay. Oui. Donc en fait, il y a deux types d'adhésion. On a une adhésion famille, donc là, c'est une adhésion pour comme son nom l'indique, une adhésion pour toute la famille et qui permet de bénéficier des activités et des services sur toute la France, en fait. Une fois qu'on a payé une adhésion à une association, on bénéficie de tout le mouvement en France. Et notamment, on a un service, donc en Indre-et-Loire, mais ailleurs, dans d'autres départements aussi, qui est de la défense des consommateurs. On a une association de défense des consommateurs qui est basée à Tours. Donc, une fois qu'on est adhérent à une association, on peut bénéficier de ce service de défense des consommateurs. Et puis, on a une autre type d'adhésion aussi, qui est l'adhésion JPES, donc qui est destinée aux jeunes entre 14 et 25 ans, pour pouvoir bénéficier d'activités spécifiques pour les jeunes sur différents territoires.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. On se retrouve juste après la pub.
Et la pub, ce sera de la musique avec Justice Phantom, partie 2. I'm sorry.
Eh bien, de retour dans Sortez, chers amis, toujours en compagnie de Laetitia d'Angers. Laetitia, prochaine question, peut-être pour finir sur le sujet de la Fédération nationale, en quelque sorte, les quatre missions un peu principales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, par exemple, la première, informer les familles et faire entendre leur voix? Comment oui. s'y prend cette association pour faire ça?
Bah justement à travers la partie défense des consommateurs, donc il y en a dans certaines fédérations départementales, mais au niveau national en fait, la fédération se mobilise beaucoup pour défendre les intérêts des familles au niveau des pouvoirs publics. Je vous donne quelques exemples, hein, ça peut être faire évoluer les prestations familiales, maintenir les services publics en zone rurale et périurbaine par exemple. Travailler sur le coût des produits de consommation courante et les dépenses de santé. Il y avait autre chose aussi, la mise en place, par exemple, le mouvement a obtenu, grâce à cette partie défense des consommateurs, la mise en place du chèque énergie pour les ménages modestes. L'instauration d'un droit à l'oubli sur Internet pour les mineurs aussi. L'encadrement des services de transport d'utilité sociale. Et puis aussi, tout ce qui est lié à l'étiquetage des aliments, pour qu'ils soient plus visibles, pour préserver la sécurité alimentaire des consommateurs. Donc c'est sur pas mal de thématiques, en fait.
Mais complètement, de ce que je comprends, c'est une aide aussi pour les familles, mais c'est les citoyens, en fait, quelque part.
Oui, parce qu'on parle de famille, mais comme je vous l'ai dit, c'est famille au sens large. Donc, en fait, c'est les habitants.
Exactement.
On est tous, même si on est tout seul, on est tous considérés comme une famille, en fait.
Oui,
voilà.
Exactement.
C'est un foyer, les foyers.
Et puis, c'est aussi, du coup... créer le changement en allant un peu voir en quelque sorte l'État pour dire
être force de proposition.
Exactement.
Et ensuite être pouvoir faire aussi le poids représenter les intérêts des familles, c'est pouvoir être poids par rapport comme je vous l'ai dit, il y a 160 000 familles adhérentes sur tout le territoire. C'est quand même un poids derrière pour essayer de faire évoluer les lois, des décrets, etc.
Complètement. Vous avez des exemples un petit peu? Alors, vous avez cité le chèque énergie.
Oui.
Il y a d'autres exemples comme ça qui vous viennent à l'esprit de c'est quoi le mot de gagnage? De victoire faite par famille rurale?
Alors, de victoire.
Le mot est grand, mais...
Oui, non, mais si, c'est je trouve que c'est un bon mot. En tout cas, sur des forces de proposition sur différentes thématiques, y a cette histoire de préserver les services publics dans les territoires ruraux, équiper les territoires ruraux avec la fibre et la 5G, donc ils travaillent aussi beaucoup sur ça. Développer aussi le télétravail et les tiers-lieux pour éviter, par rapport à la mobilité, pouvoir avoir accès à des zones de travail plus facilement. Être acteur sur la transition écologique. C'est un certain nombre de choses aussi sur ça. Enfin oui. Voilà, ça touche vraiment. Enfin, c'est assez large, en fait. C'est
là, vous avez tout résumé.
C'est compliqué de dire plein de tout ce qu'ils font, mais enfin voilà, le mouvement est vraiment acteur sur beaucoup de thématiques qui touchent les territoires ruraux de toute façon.
Oui, quand on va sur le site, c'est vraiment impressionnant tous les onglets en quelque sorte pour y arriver. Alors revenons peut-être maintenant à notre chère antenne de Tours,
d'Indre-et-Loire,
pardon. Donc on a pas mal parlé, enfin un petit peu de la mobilité, le développement durable, vous avez peut-être des choses à rajouter?
Oui, sur le développement durable, donc en fait je mène plusieurs projets, mais j'en ai un important que j'anime depuis 3 ans et qui nous tient à cœur à la fédération, c'est le défi foyer à alimentation positive. Donc pour vous expliquer, en fait le défi est porté régionalement par le Graines Centre Val de Loire, qui est le réseau d'éducateurs à l'environnement avec lequel on travaille beaucoup. Et l'objectif principal du défi, c'est d'améliorer les achats alimentaires des citoyens, des foyers, pour qu'ils puissent acheter plus de produits de saison, de produits frais, de produits bio et locaux, tout en maîtrisant leur budget, sans qu'ils explosent leur budget, en fait. Et pour ça, donc en fait, sur la région, on est 7 structures à animer ce défi, donc des associations, par exemple. Et on anime chacun et chacune différents territoires. Donc moi, sur l'Indre-et-Loire, j'anime 2 territoires cette année, puisque ça fait 3 ans, hein, c'est la 3e édition du défi. Donc cette année, j'anime la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire, donc nord-ouest, et la communauté de communes Loche-Sud-Touraine, donc sud-est. et tout au long de l'année, donc entre octobre et juin, on propose des ateliers, tous les deux mois à peu près. Donc on a déjà eu en premier lieu une visite de ferme bio, pour expliquer et sensibiliser les participants à ce que c'est l'agriculture biologique, différents modes aussi de vente, en vente directe, les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, la vente auprès de marchés de producteurs, etc. Donc on a cette visite de ferme. Ensuite, on a eu un atelier cuisine avec une diététicienne pour promouvoir donc les produits bio locaux à moindre coût. Donc on a cuisiné en fait des recettes souvent même exclusivement à base de produits végétaux. En fait, on n'a pas du tout utilisé de viande. Donc comment équilibrer son alimentation sans manger de viande. Là, en ce moment, donc on a, j'anime l'atelier réduire les polluants en cuisine. Donc il y en a eu un, le premier atelier sur la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire qui a eu lieu samedi dernier, et sur la communauté de communes Loche-Sud-Touraine, ça sera le 8 février donc à Genillé. Et l'idée de cet atelier, c'est de donner les clés aux participants sur quels sont les bons gestes en fait en cuisine pour tout ce qui est conservation, cuisson, emballage. Quelles sont les bonnes solutions? Qu'est-ce qui pose souci sur les plastiques, par exemple aussi, sur les additifs alimentaires, sur les pesticides. Donc voilà, donner toutes ces clés-là à travers des jeux en fait, et puis aussi de leur donner une solution. On, à la fin de l'atelier, on fabrique ce qu'on appelle un bivrap, donc B-E-E comme abeille, wrap comme emballage. Donc en fait, c'est des tissus, c'est un tissu enduit de cire d'abeille qui permet de remplacer le film alimentaire. Et puis donc dans les prochains ateliers, donc on aura en avril les ateliers cuisine anti-gaspi. Voilà, toujours dans l'optique de réduire les coûts hein, si on veut acheter des produits de meilleure qualité. Et puis le dernier atelier de l'année, là, ça sera un atelier autour du jardin. Donc voilà sur la partie alimentation. Ça fait déjà, ça, c'est déjà un des gros projets qu'on a à la fédération en partenariat avec d'autres structures. Donc c'est un projet qui est financé en grande partie par la région Centre-Val de Loire, ce qui nous permet de proposer ces ateliers gratuitement aux participants.
Okay.
Donc ça, c'est super.
Tout pour une consommation responsable.
Exactement, ouais, c'est l'idée. Et puis après, je propose un certain nombre d'ateliers toujours autour de l'alimentation, donc des ateliers cuisine pour cuisiner les produits de saison, des ateliers anti-gaspi, des ateliers pour découvrir d'autres céréales, par exemple, que le blé, ou les légumineuses aussi, justement, pour pouvoir un peu remplacer la viande dans certaines de nos plats. Au niveau atelier cuisine, j'ai aussi des ateliers cuisine pour apprendre à travailler les produits non raffinés. Donc ça peut être le sucre non raffiné, les céréales non raffinées, etc. Voilà, pour redécouvrir un petit peu ces produits-là. Et puis un autre, plus un atelier cuisine parents-enfants pour apprendre à cuisiner des desserts à base de légumes aussi, pour pouvoir faire manger des légumes aux enfants, de toujours découvrir des produits de saison, voilà. Ça, c'est plutôt sur la partie alimentation. J'ai des ateliers aussi zéro déchet, des ateliers zéro déchet dans la cuisine, dans la salle de bain, et puis avec les bébés, ateliers zéro déchet avec les bébés. Et puis après, j'ai des ateliers autour de la santé environnementale, où là, j'ai des ateliers qualité de l'air intérieur à destination des jeunes parents ou futurs parents, et des ateliers pour, par exemple, fabriquer ses propres produits ménagers ou fabriquer ses propres produits cosmétiques. Voilà un peu le genre de choses qu'on peut faire.
Et qui vient généralement, quel public vient aux ateliers? Est-ce que c'est plutôt les jeunes familles, en quelque sorte, avec leurs enfants en bas âge, où il y a vraiment un public extrêmement large?
Et on a un public très large qui, d'ailleurs, ça nous va très très bien parce qu'on veut toucher tout le monde. Donc, on a à la fois les familles avec des jeunes enfants, les familles avec des adolescents, par exemple, ou même des enfants plus vieux, des seniors, des personnes seules. Voilà, on a vraiment tout type de public. C'est ça qui est bien, je trouve, de pouvoir aussi mélanger tous ces publics et qu'il y ait de l'échange, de l'intergénérationnel aussi dans ces ateliers, et que ça participe aussi aux échanges qu'il y a entre les participants. C'est le but.
Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose un petit peu sur cette antenne ou on fait une pause musicale et on revient tout de suite après?
Pour l'instant, c'est bien.
Très bien.
Eh bien, c'est à mon tour, je crois. Et pour la pause musicale, ce que je peux vous proposer, ce sera Gaëlle Faye avec « Tôt le matin ».
Dansant, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes. Hume les fleurs, leur senteur navrante. Laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie. Prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux. Enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu. Défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous. La fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Kougan, empereur de brigands, maquin d'albois, caliment. Écris des récits ou te cogner à tes récifs. Une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes libides si ton cœur lui aussi s'abîme. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trois rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne, l'on m'attendait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contre-sens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune, que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas.
Et voilà, de retour pour cette dernière partie en compagnie de Laetitia de l'association Famille Rurale. Pouvons-nous désormais parler un petit peu plus précisément de ce que proposent concrètement, les associations locales?
Oui, donc comme je vous l'ai dit, sur le département, on a 16 associations locales. Donc je vais les balayer un petit peu, mais par exemple, on a l'association Famille Rurale de Sainte-Maure-de-Touraine qui propose un multi-accueil petite enfance, par exemple. On a des accueils de loisirs, donc à Zelrideau, à Beaulieu-les-Loches, à Chédigny, à Ferrières-sur-Beaulieu, Saint-Jean-Saint-Germain, Coteau-sur-Loire et Toxigny. Donc on a pas mal dans le sud Touraine et puis quelques-uns un petit peu dans le nord Touraine. Et puis on a un certain nombre d'associations qui proposent donc des activités de loisirs et de découvertes. Ça peut être des ateliers cuisine, des voyages découvertes, des animations autour du conte aussi par exemple. des soirées musicales, des cours d'art plastique, des cours de langue, du cinéma de plein air, des cours de dessin, de peinture, des après-midi jeux de société par exemple, des sorties culturelles, des visites et animations découvertes du patrimoine et du territoire, ou des fêtes de village aussi par exemple. Et puis des activités physiques et sportives, donc ça peut être de fitness, yoga, de la gymnastique, différentes danses, de la randonnée, de la marche sportive, voilà. Et certaines de nos associations aussi proposent déjà de la mobilité solidaire, c'est le cas par exemple d'une association à Saint-Flovier qui proposait déjà ce service avec leur bénévoles. Sur le territoire de Racan, donc au nord Touraine, depuis déjà quelques années, on a développé ce qu'on appelle un café des aidants. En fait, l'idée, c'est de proposer sur des temps spécifiques dans la semaine, sur une après-midi, aux aidants familiaux, donc aidants pour différentes problématiques. Hein, ça peut être des aidants pour des personnes qui ont l'Alzheimer, pour des personnes en situation de handicap ou pour des enfants autistes, par exemple. Des moments de répit où elles vont pouvoir échanger sur des problématiques qu'elles ont au quotidien en tant qu'aidant familial. Voilà, d'avoir un moment pour souffler aussi. Et ça, c'est ce café des aidants, on souhaite le développer aussi sur d'autres territoires. Donc, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Et puis, on a aussi certaines associations qui proposent des actions parentalité, donc avec les enfants, notamment des activités de relaxation, de yoga aussi, par exemple, avec les enfants. Et puis, il y a peut-être un projet de bibliothèque itinérante qui va se développer, notamment avec l'association de Saint-Jean-Saint-Germain. Voilà, donc on a plein de projets. On fait avec les moyens qu'on a au sein de la fédération et puis au sein des associations locales. J'ai peut-être pas donné tous les chiffres en Indre-et-Loire, mais on a à peu près 1800 familles adhérentes en Indre-et-Loire. Avec les 16 associations locales, donc 8 organisateurs d'accueil de loisirs. On a 150 bénévoles en Indre-et-Loire et 80 salariés. Donc voilà, que ce soit animateur, directeur d'accueil de loisirs, professeur d'activité physique, etc. Donc on a quand même un panel d'activités assez large.
Complètement, mais d'ailleurs, alors du coup, toutes ces activités, si jamais on s'inscrit pas, mais on adhère, à Famille Rurale, on peut les faire, quoi. Tout est ouvert.
Une fois que vous avez adhéré, en fait, il faut adhérer à une association. On ne peut pas adhérer à la fédération, il faut adhérer à une association locale. Donc, après, vous pouvez aller sur le site internet, vous verrez toutes les associations qui existent sur le département. Vous adhérez à une association, donc vous payez la cotisation pour l'année, en fait. Soit vous êtes une famille et vous payez pour votre famille, hein, vous payez pas pour chaque personne, vous payez pour votre famille. Soit vous êtes un jeune entre 14 et 25 ans, et dans ces cas-là, vous pouvez avoir une adhésion spécifique, qui est l'adhésion J-Pass, qui coûte moins cher et qui vous permet aussi de bénéficier des activités. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez adhéré à une association, en fait, vous adhérez à tout mouvement Famille Rurale.
Oui, donc c'est très intéressant, vraiment.
Oui.
Très bien. A-t-elle reçu l'association, hein, j'entends, des agréments par les pouvoirs publics pour agir, par exemple, offre-t-elle des formations ?
Tout à fait. En fait, on est formateur BAFA, B-A-F-D, donc au niveau de la région, hein, ils ont l'agrément pour former les jeunes BAFA et B-A-F-D. Donc on essaye de développer des BAFA de territoire en partenariat avec les intercommunalités pour proposer au plus près des publics concernés des formations adaptées. Et on essaye de développer aussi un petit plus avec des formations BAFA, avec des thématiques autour du développement durable, hein, histoire d'amener un peu notre touche personnelle sur ces formations-là. Donc voilà.
Par rapport, petite dernière question en quelque sorte, pour finir, après je ne sais pas si elle a réellement un impact, mais est-ce que vous avez des conseils, grâce à votre expérience, en quelque sorte, à donner aux familles pour leur vie quotidienne, très généralement ?
Très généralement ?
Oui.
Pas forcément sur du développement durable.
Je sais pas, comme vous voulez, mais c'est vrai que réduire les déchets, par exemple, comment est-ce qu'on fait quand on est une famille en quelque sorte nombreuse pour agir sur ce point-là, par exemple.
Déjà, je dirais qu'il faut essayer, premier lieu, de faire un peu son propre état des lieux, en fait, d'où on est. Parce que souvent, on vit, mais on regarde pas forcément comment on fonctionne, comment notre famille fonctionne, comment on consomme. Moi, j'aime bien, dans mes animations, remettre un peu de conscience dans ce qu'on fait au quotidien, etc. Et à partir de ce moment-là, déjà, quand on prend un peu plus conscience de ce qu'on fait, on a plus cette capacité et cette envie d'agir pour changer les choses. Donc je dirais déjà prendre le temps un peu de se poser, de prendre conscience de ce qu'on fait, que ce soit dans sa consommation courante, hein, achat alimentaire ou autre, dans les déchets qu'on produit, l'eau qu'on consomme, l'énergie qu'on consomme, etc. Voilà. Essayer de reprendre conscience un peu de tout ça. Et puis à partir de ce moment-là, peut-être participer à des ateliers proposés par la fédération et être accompagné sur ça, parce que souvent ça peut être compliqué et difficile, le changement, quand on est dans son quotidien, mais quand on a pratiqué lors d'un atelier, ça peut être lever des freins et donner plus l'impulsion, en fait, pour continuer le changement. Et puis commencer doucement par une petite chose, et puis petit à petit ça se mettra en place et ça deviendra des habitudes.
Oui, très bien dit. Alors justement, cet atelier du 8 février, est-ce que vous pouvez vous en parlez, ça se tiendra où, à quelle heure, tout ça?
Alors, donc, c'est dans le cadre du défi foyer alimentation positive. Donc, c'est l'atelier réduire les polluants en cuisine. Ça aura lieu à Génillé, donc c'est juste à côté de Loche, à 10h. Entre 10h et midi et demi à peu près. Et puis sur cet atelier, on fera des jeux en groupe pour comprendre un petit peu l'impact des contenants alimentaires, des ustensiles de cuisine, des additifs dans les produits ultra transformés, des pesticides dans les fruits et légumes. Et puis on trouvera des solutions alternatives pour que ces objets est un moindre impact au niveau de notre santé.
Allez, comme quoi, par exemple, il y a un ou deux exemples que vous pouvez nous donner ou pas?
D'alternatives. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, remplacer le film alimentaire par des bivaps, des tissus enduits de cire d'abeille. Utiliser des contenants en verre, puisque le verre, c'est un des matériaux les plus inertes, en fait, où il y a moins d'impact sur la santé. Essayer de petit à petit de bannir le plastique qui fait partie intégrante de la cuisine, et on l'aborde, cette notion de différents plastiques et puis de l'impact sur la santé. Donc déjà c'est pas mal.
Complètement, exactement. Eh bien, merci beaucoup Laetitia.
Merci à vous
d'être venue dans cette émission.
Et du coup, nous allons écouter Moi Je avec le remix de Petit Biscuit sur la musique Fais Rien. revoilà en direct, cette fois pour votre agenda.
What you gonna do now?
Et on démarre tout de suite avec un concert, le concert de Stash. Alors Stash, c'est qui? C'est quoi? C'est un personnage, un homme simple qui se pose peut-être plus de questions que les autres. Entre pureté et brutalité, passion et cruauté, amour et colère, Stash, c'est aussi des états d'âme, le miroir d'une jeune société insouciante qui vit la nuit, jongle entre autodestruction et amour sans lendemain. Pour ce concert de folie, donc l'afterwork du Kubrick, ça se passera du coup au Kubrick, 15 rue du Change, entre 18h30 et 20h30. Et on continue avec le Trouble Café. Qu'est-ce que c'est ? C'est chaque premier mercredi du mois, le Bistrot 64 et son patron vous invitent pour un apéro, salon, café, discussion informelle et conviviale. Pas d'ordre du jour, juste une occasion d'échanger autour de thèmes, genre, sexualité, identité, qui nous questionnent ou nous titillent, de se prêter des livres, d'imaginer des projets ou simplement de rencontrer. Donc pour une soirée discussion, rendez-vous ce soir de 18h à 21h au Bistrot 64, 64 rue du Grand Marché à Tours. Et on continue avec Vogue au Grand Kajibi. Ce sont du coup des cours itinérants de voguing. Et le voguing, c'est quoi ? Le voguing, c'est la danse issue de la culture ballroom créée par la communauté transgenre et homosexuelle à New York dans les années 70. Il est popularisé par le document Paris is Burning et le clip Vogue de Madonna dans les années 90. Donc pour apprendre cette danse ou simplement pour regarder les autres ou vous amuser, rendez-vous ce soir de 19h à 20h30 au Grand Kajibi, 9 allée de la Fauvette à Tours. Et on termine cet agenda avec l'AKA Comédie partie 2. Alors, l'AKA Comédie, qu'est-ce que c'est ? C'est des humoristes de la nouvelle génération, locaux comme nationaux, qui feront découvrir leur univers. Il y aura du coup Alicia Setou, Rémiche, Nathan Amidou, Sofiane Etaille, Ronnie et Teddy. L'entrée est gratuite, consommation obligatoire, mais c'est l'heure de l'happy hour, il y a plein de bières, l'AKA c'est bien, tout le monde y est, les ACS, nous, voilà, l'Académie de la bière, c'est cool. Et du coup, donc pour une soirée pleine de rigolades, rendez-vous ce soir de 20h30 à 23h du coup à l'Académie de la bière, 43 rue Lavoisier à Tours. Et on continue, on termine avec l'agenda des marchés. Alors pour Tours, pour du coup demain jeudi 6, il y aura celui de du quartier Strasbourg, du quartier Velpeau et du quartier Beffroi. Tous les trois de 8h à 13h. Nous aurons aussi le marché de Jouer-les-Tours, le quartier de la Rabière de 9h à midi. Celui de Chambray, place de la Mairie de 8h à midi. Celui de Montlouis-sur-Loire de 9h à midi, place Mitterrand et place Foch, il y en a deux pour les gourmands. Le marché de Vernoux-sur-Brenne, du coup place du Centenaire de 8h à 13h. Celui de Cormerie de 8h à midi, place du Mail. Celui de Saint-Marc-la-Pile de 9h à midi, place de la Poste. Et enfin celui de Villeperdue de 9h à midi, place du Monument. Et c'est tout pour cet agenda de ce soir. Et pour cette émission, du coup, évidemment, c'est la fin. L'agenda annonce toujours la fin. Il ne me reste plus que pour moi à vous souhaiter une bonne soirée, de bien vous amuser, de vous rappeler que cette émission sera rediffusée demain matin de 6h à 7h. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de la radio, c'est-à-dire le Facebook Radio Campus Tours, le site web www.radiocampustours.com. Que là, il va être l'heure du flash RFI à 18h et à 18h15, comme tous les jours, c'est le Ghetto Blaster. On va terminer du coup avec une petite musique comme d'habitude et ce sera O2N avec Bleu Fuchsia. Au revoir.
elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces, il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez pour liche, pour casser une graine, un café noir et un sandwich. J'ai la mère Eugène, y'a plein de sous l'eau, assommé au comptoir. Il compte les histoires, il compte les goulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Canon.
Le ciel est triste, je trie des pommes.
Canon.
Décharger les camtars, les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute. Il s'en fait pour son argent, il fait vivre des familles. C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire, elles brillent au fond du container. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des pulls avec des trous. Transpalette, grand balai, je reste fier de ma race ferroviaire. Les ongles noirs, le gris du quai, le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires. Le vendeur me casse les glandes, il aime pas bien la couleur du préparateur de commande. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Camion.
Le ciel est triste, je trie des pommes.
Camion.
Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Fuchsia.
Le ciel est triste, je trie des pommes. Le fuchsia.
Canon.
Le ciel est triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Fuchsia.
Le ciel est triste, je trie des pommes.
Fuchsia.
Le ciel est triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le fuchsia.
Canon.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.
Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'agenda.